Ce matin, nous lirons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5, les versets 21 à 43. Jésus regagna l'autre rive en bateau, et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jaïros, arrive. Le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille est sur le point de mourir. » « Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je touche, ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta, et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire « Qui a touché mes vêtements ?» Les disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts et tu dis, qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsqu'arrive chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner alors le maître ?» Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivent chez le chef de la synagogue. Là, ils voient de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Eux se moquaient de lui. Mais lui les chasse tous, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il entre là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha cum », ce qui se traduit « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. En effet, elle avait 12 ans. Ils furent saisis d'une grande stupéfaction. Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache et il dit de lui donner à manger. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 178, les strophes 1, 3, 4 et 6, dans le louange et prière. Nous prions ensemble. Éternel, bénis-nous au moment où nous nous plongeons dans ces textes anciens. Permets que ces récits nous éclairent sur ta parole, qu'ils nous fassent replonger dans ce que tes témoins ont voulu nous dire, transmettre d'âge en âge. Nous te demandons ton esprit, permets que ces paroles deviennent paroles de vie pour nous. Amen. Une femme en pleine maturité choisit de se laisser saisir par la grâce de Dieu. Et une petite fille, encore un nourrisson, qui reçoit le signe visible de la grâce invisible de Dieu. Voilà ce que ce jour nous a permis de partager ce matin, dans cette église où quiconque est accueilli l'est toujours sans condition. Et comme un écho biblique, deux femmes dans l'évangile de Marc, l'une adulte et malade depuis 12 ans et l'autre enfant, âgée de l'âge même de la maladie de l'autre, et qu'on tient pour morte durant quelques instants. Comment ce récit nous est-il donné? Comment le tissage de ces vies et de ces récits de vie nous est-il donné? Il faut que je vous dise que nous avons choisi il y a longtemps ce texte avec Chantal dans son chemin vers ce jour, sans penser qu'une petite fille se ferait baptiser précisément le même jour. Et nous avons eu la grâce d'avoir cet événement. Bien sûr, rien de comparable entre le drame qui se joue pour la femme qui touche le vêtement de Jésus et bien sûr... pour la petite Alice, aucune crainte quant à sa santé, à la différence de ce qui se passe pour l'enfant de l'évangile de Marc. Mais le petit miracle, c'est que l'évangile rapproche deux destins féminins à des âges différents pour faire résonner en nous la force de la résurrection. Et le petit miracle, c'est que deux destins féminins se présentent dans notre communauté ce jour même. Cette nouvelle vie qui s'ouvre pour l'une et l'autre des héroïnes bibliques est aussi une nouvelle vie pour nos héroïnes du jour. Mais voyons cet étrange récit. D'abord une fillette qui est au plus mal. Et puis une histoire de femme qui perd du sang. Puis de nouveau la fillette. Le bibliste Edwards appelle cela délicieusement « the Markian sandwiches ». Les sandwichs à la mode de Marc. Il a étudié cette drôle de façon d'emboîter les récits chez Marc et s'est aperçu que lorsque l'évangéliste a recours à ce procédé, le récit B emboîté dans le récit A donne sa signification à l'ensemble. Alors que dit ce récit en plein milieu de l'autre récit? Il raconte qu'une femme atteinte de règles irrégulières se faufilait dans la foule pour venir toucher le pan du manteau de Jésus afin d'être sauvée. On se demande de nos jours pourquoi ce serait si grave. Même si notre société est enfin en train de reconnaître que quelques jours par mois, les femmes ont parfois besoin de quelques heures de repos pour des particularités physiologiques qu'elles n'ont pas choisies et qui font pourtant partie de leur vie jusqu'à une date tardive de leur existence. Ce récit nous livre la détresse bien réelle de cette femme. Et il faut nous transporter dans ce temps ancien pour comprendre. Dans son contexte, cette femme est en impureté perpétuelle, si l'on regarde la loi religieuse sous laquelle elle vit. Dans Lévitique 15, 25, on lit que tout ce qui concerne les règles des femmes les rend impures, ainsi que tout ce qu'elles touchent pendant 7 jours. Les meubles, les tissus, tout. Les gens aussi. Toutefois, dans le Talmud de Babylone, plus récent que l'évangile de Marc, certes, mais qui laisse entrevoir son origine antique, il est écrit que la femme dont les menstruations ne sont pas régulières ne doit pas avoir de relations sexuelles, elle ne peut prétendre à sa dot, ni aux fruits de ses biens propres, ni à une pension, ni à une compensation pour l'usure de sa garde-robe, et son mari doit la renvoyer et ne jamais la reprendre. Bref, cette femme devient de fait une marginale, précaire et ostracisée. À quelle vie peut-elle prétendre dans cette société traditionnelle? Dans une impasse, elle a l'audace, un certain jour où la foule est nombreuse, de venir toucher le vêtement de Jésus. Dans d'autres évangiles, on précise que l'on touche le pan du manteau de Jésus, ce qui revient à toucher les houppes qui y sont suspendues, qui pendent au châle qui lui sert de manteau. Ces houppes sont, dans la tenue vestimentaire des hommes juifs de cette époque, des rappels symboliques de la loi de Moïse, de chaque commandement. La femme hémorroïse, comme on l'appelle souvent, vient toucher Jésus dans son observance de la loi. Elle vient tracasser les commandements, comme si elle voulait demander « Est-ce bien raisonnable, toutes ces règles qui nous empêchent de vivre ?» Ce récit n'a rien d'un récit de miracle, ni par sa structure, ni son but non plus, car Jésus ne sait rien. Il se fait surprendre, et quand la femme dira qu'elle est guérie, sa parole ne valant rien devant les autorités religieuses, parce qu'elle est une femme, elle n'accrédite pas que Jésus a accompli un miracle, donc. Ce que fait la femme en tremblant, c'est ce qu'on appelle dans la culture juive une teshuva, c'est-à-dire qu'elle avoue son impureté et ce qu'elle a fait à Jésus, parce qu'elle l'a touché et rendu de fait impur, comme si elle le faisait devant Dieu. Cette notion de repentir, de teshuvah, est particulièrement présente lors de la fête du grand pardon, le Yom Kippour, moment de profond repentir des fidèles qui peuvent demander pardon directement à ceux qu'ils ont offensés et à Dieu, bien sûr. Ce jour du pardon, le jour, comme on l'appelle aussi, commence pour nos frères et sœurs juifs ce soir même. Et nous sommes donc en communion avec eux dans ce moment. Dans son article « Deux guérisons un jour de Kippour », Thierry Mureya démontre que ces guérisons emboîtées se déroulent sans doute un jour de Kippour. Et pour le prouver, il remonte à un emboîtement plus large encore. On reconnaît dans cette histoire de Marc, l'histoire qui précède les deux récits de miracles. Il s'agit d'un possédé guéri par Jésus, dont des légions d'esprits impurs vont se placer dans des ports, lesquels se précipitent dans le vide du haut d'un précipice. Et ce jour-là, tout le troupeau meurt. Tout cela est furieusement semblable à ce rite du Yom Kippour qui consiste à tirer au sort entre deux boucs et en envoyer un au diable, à Azazel, c'est-à-dire chargé des péchés de tout le peuple. On peut se demander ce que devient le bouc malchanceux qui a été ainsi envoyé avec les péchés du peuple et où termine-t-il sa course ? Eh bien, il est précipité dans le vide pour être sûr qu'il ne reviendra jamais. Ainsi, Jésus vient de faire une guérison juste avant ces deux miracles où il a envoyé le mal à Azazel. Ce sont les pauvres porcs qui ont payé le prix. Luther disait d'ailleurs des choses terribles là-dessus pour être très méchant avec les autres églises. Et la petite fille, que vient-elle faire dans cette histoire ? Que vient-elle faire après se posséder guéri et dont le mal a été envoyé très loin ? Et cette femme ? Que vient faire son histoire dans ce sandwich de récits bibliques ? On la croit morte, ce qu'elle n'est pas. Jésus insiste pour voir et entrer dans la maison et finit par dire « Talitha cum, jeune fille, réveille-toi ». Et il finit par dire « Donnez-lui à manger ». Là encore, rien de très miraculeux au bout du compte, mais si cette histoire se déroule un jour de Kippour, cela prend tout son sens en effet. C'est la seule fête où le jeûne est obligatoire. Et on initiait les enfants à jeûner quelques heures à partir de 10 ans, mais à 12 ans, ils devaient jeûner comme les grands, toute la journée. Cette jeune fille est inanimée, sans doute à cause du jeûne qu'on lui a imposé et qu'elle ne supporte pas. De la mort à l'hypoglycémie, le drame perd tout à coup son intérêt, son intensité. Et ceux qui se moquaient de lui, de Jésus, parce qu'ils ne croyaient pas à la mort de la petite, se retrouvent du côté du ridicule. Sont-ils si incapables de critiquer l'usage qu'ils font de la loi, qu'ils ne s'aperçoivent même pas qu'elle est tout simplement en train de mourir de faim, au sens figuré ? Dans cette chorégraphie à la mode de Marc, ces récits nous montrent que Jésus réinterprète le Kippour, le grand pardon. Et il nous invite à y voir le pardon de Dieu pour les êtres humains et non pas contre eux. Il transgresse toutes les règles de pureté pour se placer délibérément avec celles et ceux qui souffrent de l'interdit et du mauvais usage de la loi. Le possédé vit parmi les morts, il est donc tout le temps impur. La femme est en impureté perpétuelle et la maison du chef de la synagogue est impure parce que la jeune fille est censée y être morte. Jésus passe dans tous ses récits, tel le bouc émissaire de la fête de Kippour, et démystifie le mal dont on se sert pour asservir les plus faibles de la société d'alors, les malades et les femmes. En compromettant sa pureté rituelle, il prend sur lui ce qui est invivable dans la loi des hommes pour redonner la vie à ces êtres dont on nie une part de l'existence, comme si cette part dépendait d'eux alors qu'elle les précède. Il redonne vie aux possédés qui est dans les tombeaux, qui vit là, et qui est atteint d'un mal contre lequel il ne peut rien. Comme il redonne vie à la femme qui est elle aussi impuissante à changer ce qui dérange tellement la logique de sa société, basée sur la procréation, et qui ne tolère pas que tout cela soit déréglé. Il redonne vie à la jeune fille de 12 ans, qui a besoin de manger plutôt que de jeûner, si elle veut pouvoir grandir et tenir debout. En relevant les contradictions intenables d'une loi devenue injuste à force de ne pas prendre en compte l'humanité de chacun, Jésus accomplit le pardon de Dieu sans faire porter le poids d'une loi accablante à ces êtres fragiles qui ont besoin d'un salut. Il rappelle la valeur libératrice de la loi de Moïse. Mais ce faisant, il sépare le véritable mal dont les êtres ne sont pas responsables de la culpabilité construite par des règles religieuses et sociales. Si ces récits sont des exemples qui valent pour des thèses en faveur d'une grâce de Dieu qui précède la loi religieuse des hommes, alors l'emboîtement des récits fait de l'histoire de la femme hémorroïse la clé du Kippour, la clé du grand pardon. Elle est sauvée par la seule déclaration personnelle de son salut, par sa teshuva intime, par cette confiance incroyable qu'elle a eue, de croire que Dieu était pour elle et non pas contre elle. Le pardon des dieux est une affaire entre la foi de cette femme et Dieu, et aucun dignitaire d'aucun temple ne peut réglementer ce fait. Jésus affirme « Ta foi t'a sauvée », et ce rappel indique pour la jeune fille qu'on croyait morte que ce salut de Dieu est là pour que chacun puisse être relevé devant Dieu. Talita cum, jeune fille, réveille-toi. Alors qu'annonçons-nous dans nos religions encore aujourd'hui? Des règles pour contraindre à l'impossible? Le mythe d'une humanité parfaite que l'observance des dogmes permettrait à diviniser? Est-ce que c'est ça notre aspiration? Est-ce que c'est vers ça que nous allons? Sans doute non. Quelle est cette eau dont nous baptisons les enfants et les adultes? Est-ce l'eau lustrale du temple qui cherche à purifier ce qui nous semble impur? Ou l'eau d'un baptême qui rappelle la parole de grâce de Dieu? Celui-ci, celle-ci, est mon enfant bien-aimé, en lui j'ai mis ma joie, dit Dieu au moment du baptême de Jésus. Aujourd'hui, nous avons entendu la parole sincère d'une femme et sa relation à cette grâce qui redit sans cesse à chacun « Réveille-toi, tiens-toi debout, tu es aimé tel que tu es ». Aujourd'hui, nous avons annoncé cette grâce à une toute petite fille qui sera une fillette de 12 ans, un jour, et une femme plus tard, avec son chemin, son parcours. Et à chaque âge de sa vie, elle aura besoin de cette parole de grâce, de celles et de ceux qui déclarent croire en un Dieu qui libère. Serons-nous là pour démasquer le ridicule d'une religion qui place l'essentiel dans des dogmes qui contraignent sans libérer? Serons-nous là pour affirmer que seul son dialogue libre et intime avec Dieu fait autorité? Serons-nous là pour dénoncer les regards qui utilisent Dieu pour mieux culpabiliser et manipuler les consciences? Ici, c'est une maison ouverte. Et Chantal nous a dit qu'elle y était entrée un jour avec simplement l'accueil. Chantal et Alice marchent dans le peuple immense des enfants de Dieu. Chacune à leur façon, elles inventeront demain sans renoncer à quelque partie de leur vie. C'est complètes et entières que Dieu les aime et les accueille. Avec leurs forces et leurs faiblesses, avec leur corps, leur sensibilité, leur affectivité et tout ce qui reste à découvrir dans leur vie. Alors comme dans une résurrection qui n'en finit jamais, à chaque âge, que cette communauté puisse leur dire avec foi les paroles qui écartent d'elle les fausses mortes. Que cette communauté puisse dire toujours « Talita cum ».